Tu sais, ton chapitre 2, on parle de la deuxième venue de Jésus. On va voir ce qui, surtout, qui a trait avant. Je vais donner quelques petites remarques d'introduction. Mais on va plonger assez rapidement dans le vif du sujet. D'abord, on lit dans Tite 2, 13. C'est là qu'on va lire. Pour commencer. Tite 2, 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Savez-vous qu'une bienheureuse espérance, oui, nous l'avons, savez-vous que c'est unique? Il y a juste les chrétiens nés de nouveau qui ont cette bienheureuse espérance parce qu'on a la certitude de notre salut, on a la certitude que notre Seigneur va faire tout ce qu'il a promis. Et les chrétiens regardent avec anticipation et avec certitude leur avenir. Pourquoi? Parce que c'est notre rencontre avec Dieu qui nous attend. On n'est pas condamné, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Au contraire, on sait que ça ne peut qu'aller mieux. Même si ici-bas, ça peut aller pire pour un temps, au bout du compte, le Seigneur va tout diriger. Et savez-vous aussi, j'ai référé tantôt, mais la deuxième venue est aussi un incitatif à une marche sanctifiée, à une marche qui plaît au Seigneur. Je vous cite à ce sujet-là 1 Jean chapitre 3, ça dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Donc, il y a un effet, il y a une promesse de la parole de Dieu que les vérités qu'on considère là ont un effet bénéfique, sanctifiant sur nos vies. Et je veux simplement prendre quelques moments aujourd'hui et la semaine prochaine pour considérer ce qu'on peut appeler la deuxième venue de Jésus, le retour, il y a toutes sortes de termes techniques pour ça, là. Enlèvement, deuxième venue en gloire, même là, si vous voulez un mot fancy, là, la parousie, là, qui vient du grec parousia, qui veut dire l'enlèvement, là, mais bon. Oh, wow. Je n'ai impressionné un avec mon gros mot, c'est pas pire, là. Mais, ouais, c'est. Non, mais c'est pour dire, tu sais, tout ce qui a rapport au retour du Seigneur, beaucoup de façons où est-ce qu'on aurait fait, puis on peut des fois en être un peu mêlé, fait qu'on va essayer un peu de démêler ça, puis amener les choses clairement et simplement. En regardant aujourd'hui d'abord deux concepts de base à comprendre par rapport à la deuxième venue de Jésus, à ce qui précède. D'abord, savez-vous que pour la deuxième venue de Jésus, personne ne connaît la date et l'heure, mais Jésus en a expliqué les circonstances. Et ça, vous pouvez tourner dans Luc 17, puis c'est clair quand Jésus parle. Il réfère à deux événements historiques. Deux événements de l'Ancien Testament, l'époque de Noé, l'époque de Lot. Et on va tirer une première leçon de ça, sur les circonstances. C'est deux temps distincts de l'histoire que Jésus utilise ici pour donner une leçon par rapport à sa deuxième venue. D'abord, sur l'époque de Noé, on lit dans Luc 17, 26, « Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. » Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. D'abord, on voit que tout était normal jusqu'à ce que le déluge vienne. Fait que c'est comme les gens faisaient leur vie, tout ça, mariaient leurs enfants. Puis le jugement est venu de façon soudaine, sans que personne s'y attende. Malgré que Dieu avait averti. Mais les gens vivaient comme si, justement, il n'y avait pas rien qui allait arriver, puis le jugement a frappé. OK? Donc, c'est deux éléments. OK? Tout était normal. La vie allait comme normalement, puis le jugement est venu subitement. Maintenant, regardons les versets suivants sur Lot. Verset 28. « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Donc, même chose. Tout le monde vivait normalement. Boum! Le jugement frappe d'un coup. Mais il y a une spécificité, par contre, avec ici, de la même manière qu'il a fallu que Noé rentre dans l'arche avant que le jugement tombe, il a fallu que Lot sorte de la ville avant que le jugement... Voyez-vous comment les enfants de Dieu sont protégés du jugement? Ils ne sont pas partis du jugement. OK? C'est pas un hasard, là. C'est un pattern, je dirais. OK? Puis je m'en vais à quelque part avec ça, là. Si tu veux me voir avec mes grosses bottines, c'est pas grave, là, mais... Il y a un pattern qu'on voit là. Puis sur Lot, on apprend aussi que les circonstances de l'époque, dans Jude 7, ça dit « Sodome et Gomorre et les villes voisines se livrant comme eux à la débauche et à des vices contre nature sont donnés un exemple subissant la peine d'un feu éternel. » Donc, la méchanceté était très avancée. Pensez aussi du temps de Noé, ça dit que Dieu voyait que le cœur de l'homme était constamment tourné vers le mal. Pensez-vous qu'on peut dire qu'on est pas mal dans une époque de même en ce moment? Voyez-vous tous les éléments qui étaient là? Jésus le fait un parallèle avec son retour. Ces éléments-là sont en commun avec ce qu'on vit en ce moment. Je vous dis que notre culture se rapproche. C'est comme si elle était en course vers Sodome et Gomorre. Je veux dire, regardez comment notre culture, on peut dire les dernières décennies, mettons, les années 60-70, il y a commencé à avoir du changement. 80-90, ça a accéléré. Mais là, même dans les 5 dernières années, tu sais, ce que dans les écoles, les affaires, on a atteint des niveaux sans précédent, mais extrêmement rapidement, d'une rapidité qui n'avait pas été là avant. Maintenant encore, la lumière de la parole de Dieu là-dessus, ça nous aide à comprendre les choses. Jésus dit dans Luc 18, vous êtes là, vous êtes à côté, vous pouvez aller dans Luc 18, 8. Je vous le dis, Jésus ici qui parle, il fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'on vit dans une époque de foi et d'exploit de la foi? En fait, pas pour la chrétienté connue. Et moi, je crois qu'il y a des héros de la foi inconnus qu'on va au ciel, on va dire « wow ». On va pas dire « wow » de la personne, on va dire « Dieu était à l'œuvre. Dieu faisait quelque chose derrière le rideau. On parlait dans le temps de la guerre froide du rideau de fer. Moi, je pense qu'il y a un rideau d'islam. Je pense qu'il y a un rideau de communisme. Tu sais, en Chine, là, vous savez, là, mais il y en a là, des gens sauvés puis qui sont sauvés puis tout ça. On n'entend pas ça dans les nouvelles. Mais croyez pas que Dieu est pas à l'œuvre parce que nous, il y a de l'apostasie, que Dieu, son bras est trop court puis qu'il ne sauve pas. Là, je veux dire. Mais dans... On pourrait dire la chrétienté mainstream, la chrétienté qu'on voit en général, ce qui est connu comme étant le monde chrétien, il n'y a pas grand foi. Encore un verset de contexte, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, ça dit « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. » L'apostasie, c'est une période. Maintenant, l'apostasie, c'est-à-dire se détourner de la foi. On peut, d'une façon très générale, dire que l'apostasie a commencé dès les temps de Jésus et des apôtres. Ça dit, sache que dans les derniers temps, les gens... Puis quand ça décrit de même, on regarde dans le contexte, ça parle même de l'époque des apôtres qui vivaient. Mais on sait qu'il y a ce phénomène d'accentuation qu'à mesure que le temps avançait, que l'apostasie s'est grandie. Puis encore là, nous, à la fin de la fin comme ça, cette période d'apostasie, a atteint encore là des sommets inégalés. La chrétienté est beaucoup une chrétienté de façade, de pragmatisme, de plaire à l'homme, peu de crainte de Dieu, beaucoup de crainte des hommes. Encore là, Dieu l'a révélé à travers les deux dernières années qu'on a vécues. Mais une chose qui est importante aussi à comprendre, c'est, bon, parce que là on parle des circonstances qui mènent à la deuxième venue. Est-ce que vous commencez à comprendre que on est pas mal dans des signes qui montrent que les circonstances montrent l'aube du retour de Christ, l'imminence. Mais il y a deux autres passages qui nous aident à comprendre. Vous pouvez y tourner, mais sinon je les ai ici. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. C'est un passage important, ça, sur quand on parle du retour de Christ. Tantôt, j'ai lu au verset 3, mais là, on part du verset 5, dans 2 Thessaloniciens 2, 5. Ne vous souvenez-vous pas que je disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient. afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et l'écrasera par l'éclat de son avènement. Puis là, ça parle tout de l'apparition de cet impie là, avec tous les miracles, les prodiges mensongers. Mais aussi, on a dans Zacharie quelque chose d'intéressant. Dans Zacharie au chapitre 5, on peut lire à partir du verset 5, l'ange qui me parlait, vous savez, Zacharie était un prophète à vision. Il y a eu beaucoup de visions, puis bon, qu'il y avait des significations précises. Et en une de ces visions, au chapitre 5, on apprend à partir du verset 5, l'ange qui me parlait s'avança et me dit, « Lève les yeux et regarde ce qui sort là. » Je répondis, « Qu'est-ce? » Il me dit, « C'est l'épha. » L'épha, c'est une mesure de volume. Okay? « C'est l'épha qui sort. » Il ajouta, « C'est leur iniquité dans tout le pays. » Et voici, une masse de plomb s'éleva. Il y avait une femme assise au milieu de l'épha. Il dit, « C'est l'iniquité. » Et il la repoussa dans l'épha et jeta sous l'ouverture la masse de plomb. Je levai les yeux, je regardai, et voici, deux femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes, et elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles élevèrent l'épha entre la terre et le ciel. Je dis à l'ange qui me parlait, « Où emporte-t-elle l'épha? » Elle me dit, « Elles vont bâtir une maison dans le pays de Shinéar. » Ça, c'est le pays de Babylone. « Et quand elle sera prête, elle sera déposée dans son lieu. » Je crois, selon mon interprétation de la prophétie des Écritures, que cette vision de l'effort, parce que il faut comprendre, c'est une image commerciale, okay? c'est des mesures, l'idée c'est, dans le monde du commerce, là, il y avait comme ça, c'est des poids et mesures, dans le fond, mesures de volume, le plomb, des mesures de poids, donc c'est une image commerciale, t'sais, à l'époque, quand on parlait de commerce, c'était des termes qui étaient utilisés pour référer à faire du commerce. Et ici, bon, c'est deux femmes, là, puis là, un couvert, puis c'est comme si, dans le fond, ces choses-là, c'est en préparation pour plus tard. Pour ceux qui étaient là à l'époque que j'ai prêché dans les petits prophètes, il doit faire une couple d'années, les demi étaient là dans le temps, il doit faire puis des savoirs, il doit faire au moins 4-5 ans. En tout cas, dans Zacharie, j'avais souligné justement avec cette vision-là que je crois que ça réfère à tout ce concept qu'on parle, la Babylone, la grande, la mère de toutes les prostituées, puis tout ça, le grand commerce. Est-ce qu'on voit en ce moment, de façon planétaire, la puissance d'un commerce mondial? On dit les GAFA, les grands banquiers, puis tout ça. Je crois que c'est ça ici le concept. Ces choses qui sont préparées, tu sais, puis qui remontent, puis on pense, c'est pas juste financier. Quand on regarde les gens du monde de la finance et tout ça, du pouvoir, sont dans le cul, sont dans. C'est, eux autres, ils voient une dimension spirituelle à tout ce qu'ils font là, puis OK, puis c'est pas Jojo, là. Tu sais, c'est satanique et tout ça, mais. Ça fait partie, je crois, que ces choses-là qui sont prophétisées dans Zacharie nous montrent pour les temps en ce moment, ces choses qui étaient préparées pour, tu sais, dans l'Apocalypse, ça parle de Babylone la Grande, puis qui a séduit toutes les nations, puis il y avait tout le commerce, puis là, encore là, je pense, ça nous parle des circonstances dans lesquelles on est, ces choses qui étaient prophétisées pour plus tard, puis Babylone qui était annoncée, on le voit maintenant. Je veux dire, ça aussi, là, on parle de la culture, tout ça, mais avez-vous déjà vu les puissances financières aussi fortes et je veux dire, ils ont complètement la main mise sur les gouvernements. Les gouvernements, c'est une parure. Mm-hmm. On l'a vu avec les deux dernières années. Je pense qu'avant, c'était déjà là, c'était moins évident. Donc, voyez-vous, tout ça, j'essaie de vous tracer un tableau pour dire, OK, on ne connaît pas la date et l'heure. Puis écoutez, jamais aucun charlatan qui va vous dire, ah, j'ai fait les calculs de ça. Mais je n'avais écouté un, je ne me rappelle plus trop c'était quoi. J'avais vu ça plus pour l'exercice humoristique. Là. Il était tout motivé. Puis la petite madame était là. Puis, oh oui, comment ça? T'sais? Puis elle a fait des calculs. Puis tu essaies de suivre ça, tu ne comprends jamais rien. Fait que ça veut dire que tu peux dire n'importe quoi. Ben, ça veut dire que moi, je ne suis pas le plus smart avec les chiffres. Mais bon, moi, je connais ma parole. Puis je sais que quelqu'un qui nous dit les dates, ça ne marche pas. Là. Puis là, il s'est trompé, là, royalement. Là, je pense que c'était une vidéo des années 80, puis il mettait ça dans les années 90, là. C'est quoi son nom, donc? En tout cas, je me rappelle plus, là. Van quelque chose. Pas Van Galdren. Ah. Lui, il est correct, là. Van machin chouette, c'est un autre machin chouette, en tout cas. C'est quoi que je disais, donc?
Les dates?
Tu disais les dates.
Les dates. Les dates. J'ai une absence mentale. Non. Les dates, c'est ça, c'est qu'on peut pas donner de date et d'heure, mais j'ai essayé de vous dresser le tableau. Voyez-vous, les circonstances C'est tellement clair. Puis là, j'ai pas parlé de Marc Labin, tout ça, que on sait que, tu sais, mettons là qu'on est le petit monsieur en l'an 1000 qui lit sa Bible. Ben, il était béni s'il pouvait lire sa Bible parce que c'était dur de lire une Bible en l'an 1000, mais. Puis là, il voyait ça, l'Apocalypse, là, la marque de la bête, il voit bien ce qu'il était en train de dire, c'est quoi cette affaire-là? Mais là, à cette heure, pour nous, c'est facile pour nous de croire. Je veux dire, tu sais, un système global qui marche, qui fait ça, je veux dire, même quelqu'un n'est pas sauvé, il le voit, c'est évident. OK? Donc, les circonstances, c'est clair. Donc, la question, c'est pas de savoir la date et l'heure, mais plutôt les circonstances présentes qui confirment que le Seigneur est à la porte. Évidemment que ça doit nous amener à faire racheter le temps car les jours sont mauvais. Et on l'a vu ce matin, le juste vit par la foi. On n'a pas à s'apeurer, on n'a pas à avoir à promener les regards à gauche et à droite, mais on aime son avènement, on anticipe sa venue, puis on vit dans la joie du Seigneur, sachant que, je veux dire, Dieu est au contrôle. Il a tout annoncé, tout arrive comme il dit, pourquoi qu'on s'inquiéterait? On devrait être les gens les plus joyeux, les plus en paix. Tu sais, pourquoi? Parce que on la connaît à la fin de l'histoire, puis on connaît la bonne nouvelle, on peut donner espoir à ceux qui, justement, n'ont plus d'espoir. On a tout ce que ça prend de notre bord. Donc, levons la tête et regardons à celui qui s'en vient. Donc, ça, c'est la première chose. Personne ne connaît l'heure ou la date, mais on connaît les circonstances. Maintenant, le prochain événement dans le calendrier de Dieu. Quel est le prochain événement dans le calendrier de Dieu? L'enlèvement, trompette, eh oui. Pourquoi c'est où dans la Bible? Grande question parce que, OK, là je vais vous dire, moi je dis c'est le prochain événement, ça veut dire que je suis pré-tribulationniste. Je crois que Jésus va venir chercher les siens avant la tribulation, avant la 70e semaine de Daniel. Là, écoutez bien, là si vous n'êtes pas bien réveillé, là, dites à votre voisin, puis je vais vous faire, si vous voyez que je vise quelqu'un, donnez-lui un coup de coude, OK? Parce que c'est ça la prophétie, là. Il faut donner notre attention, c'est mettre plusieurs écritures ensemble, mais pourquoi on peut s'attendre à ce que Jésus vienne nous chercher avant les événements de la tribulation? Beaucoup de passages nous le montrent, puis on va y aller de façon positive d'un côté, puis négative de l'autre. Okay? C'est-à-dire positive, comment on voit, comment ça le dit comme ça. Bon, d'abord, Jésus, là, quand il était en personne, quand il était sur terre, il a parlé de comment il allait revenir. Vous savez quoi? Il parle d'un retour personnel, visible, littéral. Pas des affaires d'allégorie, puis je venais dans les cœurs, puis tout. Écoutez bien, là, je vais vous donner quelques références en rafale là-dessus. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous soyez aussi. Donc, il parle d'un retour personnel. Dans Actes au chapitre 1, il dit « Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière. Il est parti corporellement, puis il va revenir de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Donc, déjà, ça nous aide à comprendre. Puis aussi, on peut voir aussi dans Philippiens, « Mais nous sommes concitoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » On l'attend pour qu'il vienne, OK? Puis, donc ça nous montre déjà un retour personnel en personne. Maintenant aussi, on peut comprendre que, selon d'autres passages, il y a deux phases à son retour. C'est là quand on parle de la deuxième venue de Jésus. Il vient-tu choqué ou il vient, tu sais, il est venu en agneau, il va revenir en lion, mais nous, on fait tout là-dedans. Je suis content de vous poser la question parce que je vais y répondre. D'abord, on apprend qu'il vient pour ses saints. OK, je vais vous lire encore là des versets. 2 Corinthiens 15, 51, 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais nous serons tous, j'ai 1 Corinthiens 15, 51, 52. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Écoutez aussi 1 Thessaloniciens au chapitre 4, versets 16 et 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça, c'est ceux qui sont sauvés, mais comme en ce moment, là, si c'est arrivé là, là les, ceux qui sont morts, ceux qui sont décédés, là, Éric Sirois l'a montré en premier. Okay? Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Aussi, on apprend dans 2 Thessaloniciens, là, je vous parle comment Jésus, ça nous parle, il y a des passages de Dieu qui parlent, qui vont venir pour les siens, les changer, transformer en un clin d'œil, OK? Puis, voyez-vous, ça, c'est, ça parle pas de jugement, de Jésus qui vient pour en terrible jugement contre la terre, là. Il vient chercher les siens, là, c'est clair. Encore là, 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser troubler. Puis ça dit au verset 10, ça parle de toutes les... Attends, j'ai pas le bon verset, là. OK, non, je devrais arrêter là, c'est pour tantôt le verset 10, excusez. Excusez. OK, fait que là, j'en ai parlé qui vient pour les siens, OK, c'est l'enlèvement. Mais savez-vous que la Bible aussi qui va revenir... OK, donc il va venir... pour les saints, pour chercher des saints, puis il va venir pour juger avec ces saints. Ça, c'est, il y a une distinction. Écoutez, 2 Thessaloniciens, justement, là, c'était là mon verset. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la paix. Non, c'est pas, je suis vraiment planté. Attendez, c'est parce que ça dit, il va revenir avec ses saints, c'est 1-10. J'ai mis 2-10 sur ma feuille, mais c'est 2 Thessaloniciens 1-10. C'est tout ça? Glorifié dans ses saints. Bon, ben c'est ça, excusez. C'est moi. Lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré de tous, ceux qui auront cru, car le témoignage auprès de vous a été cru. OK? Bon, donc, retour pour ses saints et avec ses saints. Écoutez aussi Jude, versets 14 et 15. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. On pourrait dire, ah, c'est juste des anges, mais quand on compare avec ce qui a été dit dans Thessaloniciens, on fait partie de la gang. Pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ils profèrent contre lui des pécheurs impies. OK, donc, pour ses saints, avec ses saints. Pour ses saints, c'est l'enlèvement. Avec ses saints, c'est le jugement. Bon, la bataille, la fameuse bataille d'Armageddon, puis tout ça. Et là, je vais vous donner un parallèle important. Parce que là, il y a des gens qui disent, ouais, mais ça ne dit pas dans la Bible qu'il y a une deuxième venue en deux parties. OK. Alors, regardez le parallèle, je vais vous dire, puis c'est chiasmique. Je vais dire, c'est un chiasme. OK. Et vous savez quoi, un chiasme?
Non.
A, B, C, là on part de bas, B, A, ça fait un triangle. Fait que c'est un parallélisme, on voit ça dans la poésie, dans les psaumes. Si vous connaissez les structures chiasmiques, mais chiasmes, ça vous aide beaucoup à comprendre les prophètes puis la poésie de l'Ancien Testament. C'est comme ça qu'ils marchaient, c'est comme ça qu'ils pensaient. Il y avait quelque chose, il y avait un autre affaire, il y avait un point central puis ils partaient de l'autre bord. Ça faisait des parallèles avec ce qu'ils avaient dit avant. C'est comme ça qu'ils pensaient, c'était leur logique. Nous on pense en cartésien, un truc qui pensait comme ça. Maintenant, écoutez bien, quand Jésus est venu, il est venu de façon évidente en chair et os, OK? Tout le monde le voyait, tout le monde l'entendait. Mais il est venu établir son royaume, ça dit, de façon qui ne frappe pas l'œil. Puis là-dessus, la théologie de l'Alliance vont dire, ah, il est venu établir. Moi, je ne suis pas pour les systèmes, puis je ne suis pas un théologien de l'Alliance, mais je crois que Jésus, effectivement, a établi son royaume de façon non évidente. Pourquoi? Parce qu'il est au ciel, puis il règne. Jésus est roi, OK? Il n'est pas reconnu comme tel, puis son règne n'est pas sur terre. Tu sais, comme dans le millénium. Mais je veux dire, Jésus est couronné. Là. Puis, il est assis en toute gloire, en toute autorité. Là. C'est-tu évident? Non. Il est venu faire quelque chose d'évident dans son corps. Mais il a aussi fait quelque chose de pas évident spirituellement. Mais là, prenez maintenant le retour, c'est l'inverse. On commence avec le pas évident, il vient chercher les siens en un clin d'œil. C'est pas tout le monde qui va s'en rendre compte. Puis c'est pour ça que je pense que tous les prodiges mensongers, puis ce que Satan va nous dire, ça va être pour essayer d'expliquer ça. Tout le monde qui disparaît de même, bien tout le monde, tous les chrétiens qui disparaissent de même, ça sera pas évident pour expliquer. Fait que moi, il va y avoir une espèce d'explication, je sais pas trop. Là. Les extraterrestres les ont enlevés, ou je sais pas trop, un accident solaire, machin truc. Là.
Moi, rendu là, on ne dérange pas, je ne serai plus là, là ça n'arrange pas avec le mensonge. Mais ils vont essayer de trouver une raison pour expliquer, tu sais, les gens du monde qui vont être restés. Puis là, ça, c'est pas évident, puis ça commence avec ça, puis après ça, il revient de façon évidente, puis là, tout œil le verra pour juger. Mm-hmm. Voyez-vous comment il y a un parallélisme, il y a un kiosque, on le voit, puis il fait quelque chose qu'on ne voit pas, il fait quelque chose qu'on ne voit pas, puis on le voit.
Mm-hmm. Food for thought. bon. Maintenant. Ça, je pense que là, ça clarifie là, déjà en partant là, les deux temps de la deuxième venue. Aussi, on sait qu'il y a un grand jugement à venir qu'on appelle des fois la grande tribulation ou la 70e semaine de Daniel. Parce que dans la prophétie de Daniel, il donne une prophétie avec 70 semaines qui est des semaines d'années, puis toutes les semaines sont toutes accomplies, sauf une. OK? Ça, c'est très clair. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, ça serait trop long. Mais cette 70e semaine de Daniel nous parle de jugement majeur sur toute la terre. OK? Puis je dirais que l'Apocalypse, quand on comprend ça, là, l'Apocalypse, c'est comme une espèce de spotlight, là, une concentration sur cette 70e semaine. Comment ça va se passer? Tu sais, ça en parle quand même pas mal de détails dans Daniel, mais on a beaucoup de détails sur cette même période dans l'Apocalypse, OK? Ce sont toutes des choses à venir. Bon. Puis en passant, dans cette période-là, dans Daniel, il parle à Israël, puis dans l'Apocalypse, c'est qui est le centre d'attention, puis Satan s'attaque à qui? Israël. Il y a zéro référence à l'Église autant dans l'Ancien que dans le Nouveau. Bon, dans l'Ancien, vous allez dire, c'est normal parce que c'est un mystère, mais dans le Nouveau, ça n'en parle pas non plus. Maintenant, les croyants de la période de l'Église, la Bible nous dit qu'ils ne sont pas destinés à la colère. Vous ne me croyez pas? Je vais vous le lire. Ah, ben, je pense que vous me croyez, là. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Comme je vous ai dit, puis on voit le pattern. Tu sais, à partir, je faisais une joke. Enoch, là, il était pré-tribulation. Parce qu'il a été enlevé avant que le déluge arrive. Oui, le déluge, c'est ça. Fait que lui, il était pas dans l'arche, puis il a pas eu besoin de l'aide parce qu'il était enlevé avant. Puis Noé, il est rentré dans l'arche avant. Sodome et Gomorre, le jugement est arrivé après que Lot a été sorti. Puis ça nous parle aussi dans Apocalypse 3:10, ça dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Je crois encore là que c'est une référence qui nous parle que les chrétiens nés de nouveau, en ce moment de notre époque, ne vont pas passer par ces événements, parce que cette heure de tentation qui va venir sur toute la terre, on va en être préservé. Donc, l'Église ne va pas passer par la grande tribulation, à l'exception de l'Église laodicéenne. C'est qu'il se dit de Christ, mais Christ n'est même pas... Parce que moi, je pense que l'Église laodicéenne... Si Dieu vous dit « je vais vomir de ma bouche », là, c'est pas une bonne nouvelle. Puis c'est l'Église qui se fait dire ça, puis Jésus ne peut même pas rentrer. Donc, c'est l'Église apostate de l'Odyssée. Puis l'Odyssée, ça veut dire la volonté du peuple, tu sais, fait que c'est pas la volonté de Dieu. Donc ça nous donne un bon tableau qui nous aide à comprendre, justement, le prochain événement. Donc, positivement, je viens de dresser le tableau. Négativement, maintenant, des arguments qui nous montrent que l'Église, encore là, ne sera pas partie de la grande tribulation. Ben, tout vient de la confusion entre Israël et l'Église. Si on ne distingue pas Israël de l'Église, on va être tout mêlé là-dedans. Là, je vais vous expliquer pourquoi. Mais nous, ici, en tant que dispensationnistes, on croit que Israël, Dieu a un plan spécifique avec, puis c'est très clair dans la parole de Dieu. Ils ont été mis de côté, puis là, ils vont être. Tu sais, ils ont été enlevés, puis ils vont être regreffés. Puis bon, l'Église, c'est distinct. Pourquoi il y a beaucoup de confusion par rapport à toute la prophétie et tout ça? C'est à cause que la distinction n'est pas faite. Les gens qui sont mêlés. Je vais vous donner un exemple. Matthieu 24. Bon, Matthieu 24, Marc 13, Luc 21. Dans les évangiles, les événements prophétiques, Daniel 7. Si on ne fait pas la distinction entre Jésus, entre l'Église et Israël, on devient tout mêlé. Parce que Matthieu 24, c'est pas écrit à l'Église, c'est pour Israël. Il faut distinguer ça. 1 Thessaloniciens chapitre 4, par contre, c'est écrit à l'Église. Puis quand on démêle ça, ça devient clair puis ça marche. Sinon, on est tout confus. Aussi, comment ça serait possible que l'Église passe à travers la tribulation si on apprend dans Apocalypse 19, 7 à 9 que l'Église est déjà prête pour le mariage, les noces de l'agneau avant même l'Armageddon puis les événements de la fin? Encore là, ça ne marcherait pas. Puis encore là, moi, un argument très important que je vois dans la structure de l'Apocalypse même, parce qu'on s'entend, l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ, c'est ça que ça veut dire, Apocalypse, c'est révélation. Dans l'Apocalypse, d'abord, on voit que les couronnes sont déjà octroyées, avant même que toutes les couronnes pour l'Église, ça, c'est déjà toutes données, qui sont jetées aux pieds de Jésus. Puis, je veux dire, avant que toutes les autres affaires se passent. Mais aussi, comprenons l'Apocalypse, là, la structure de l'Apocalypse, elle est donnée de façon... Tu sais, un prédicateur, des fois, on veut un outline, là, comment on dit ça, un outline? Hein?
Une chronologie,
mais tu sais, un point, deux points, trois points. Ben, si on regarde l'Apocalypse, Dieu, le Saint-Esprit, a donné, c'est quoi, la chronologie, ça dit, chapitre 1, les choses qui étaient, c'est-à-dire Jean qui était sur l'île de Patmos, les choses qui sont, l'époque actuelle, chapitre 2 et 3, c'est l'époque de l'Église, et les choses qui seront, chapitre 4 et après. Donc, quand on comprend ça, on voit que, bon, chapitre 1, c'est passé, c'est Jean qui était sur l'île de Patmos, c'est de ça que ça parle, il a eu sa vision, puis tout ça. Puis là, on est dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. C'est l'époque de l'Église, puis moi, je suis sûr de la conviction que l'ordre dans lequel les Églises sont présentées, puis les caractéristiques de chacun, c'est aussi un portrait de l'histoire de l'Église. Commençant par l'Église apostolique, terminant avec l'Église apostate. OK? Ça serait dans un autre ordre, ça ne marcherait pas, mais là... Tu sais, Dieu savait, évidemment, l'histoire de l'Église, ça nous donne un portrait à l'avance de l'histoire de l'Église. OK? Avec l'Église du Moyen-Âge, la Réforme, les réveils après, puis tout ça, bon. Et donc, si on comprend ça, chapitre 4 de l'Apocalypse, ça commence comment? Après ces choses. Fait que c'est un marqueur déjà qui nous dit, il y a un changement. Après ces choses, ça, c'est les choses à venir, les choses... Là, on n'est plus dans le moment présent de l'époque de l'Église, on arrive à ce qui vient après. Et là, il n'y a plus aucune référence à l'Église. Ça ne parle plus de l'Église. Ça ne parle que d'Israël. C'est pas un hasard. Là. Dieu, tout est structuré dans sa parole. Là. Donc, si ça ne parle plus d'Israël dans tous les événements de la 70e semaine de Daniel, la grande tribulation, est-ce que l'Église est là? Elle a été enlevée. En tout cas, moi, j'en suis convaincu. Puis je veux juste terminer avec quelques exhortations à la lumière de tout ça. La semaine prochaine, on va voir qu'est-ce qu'on peut s'attendre après. Tu sais, l'enlèvement, qu'est-ce qui va arriver au ciel? On parlait un peu du tribunal de Christ et tout ça, mais juste quelques des petits éléments pour terminer. Venez avec moi dans 1 Corinthiens 15, on va terminer avec ça. 1 Corinthiens 15. Quelle leçon qu'on peut tirer de tout ça? Vive à la lumière du retour du Seigneur. Bien, vous savez qu'un Corinthiens 15, c'est le chapitre sur la... Merci Aurélie. C'est le chapitre sur la résurrection, 1 Corinthiens 15. Mettez ça dans votre pipe, vous autres. Les vieux, mettez ça dans votre pipe. Oh, c'est peut-être juste elle qui écoutait, vous savez peut-être, mais vous n'écoutiez pas. Mais 1 Corinthiens 15, ça nous dit, on commence à partir du verset 50. D'abord, ça dit, « Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. » Fait que ça, en partant, je veux dire, on s'entend, là, tout ce qu'on vient de parler par rapport au retour de Christ puis l'enlèvement, c'est pour les sauver. C'est pour ceux qui sont régénérés. Parce que, je veux dire, on ne peut pas aller dans la présence d'un Dieu dont la Bible nous dit qu'il habite une lumière inaccessible, puis un Dieu trois fois saint dans notre champ de même. Ça va être avec un corps glorifié, puis c'est ça l'enlèvement, c'est que, comme on le voit là justement dans 1 Corinthiens 15, on va avoir un nouveau corps glorifié qui est éternel, là, qui va pas, il n'y aura plus de corruption, plus de maladie, plus rien. OK? Yes! Plus de mal de dos, plus de manque de sommeil, rien. Hein?
Mal de genoux.
Pas mal à genoux, non, rien de ça. OK. Donc, ça, c'est en partant. Puis ensuite, au verset 51 et 52, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons changés, incorruptibles, glorifiés. Plus de mots. Toute larme essuyée de nos yeux. Ça doit nous encourager. Tu sais, il y en a qui ont plus de misère physiquement, là. On en a deux en particulier, là, qui physiquement n'arrachent ces temps-ci, savez-vous quoi? Puis d'autres aussi, des fois c'est mal de genoux, tout ça, mais il y en a que c'est plus généralisé. C'est pour un temps. Puis Dieu est souverain là-dedans. Je veux dire, tu sais, Dieu ne nous aime pas moins, là. C'est Dieu, dans son amour, il sait ce qu'il fait. Puis il permet ça, mais on peut avoir cette espérance, avoir, mais un jour, là, il n'y aura plus rien de ça. Regardez aussi verset 55. Là, parce que les versets entre les deux, ça parlait de ce qui était corruptible. Tu sais, ça parle de toute cette transformation. Mais regardez au verset 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? La mort, son aiguillon, là, sa puissance, avec quoi? À pic, ça va être brisé. La mort ne va plus nous piquer dans le côté. Puis là, la mort, il faut voir, la mort, on meurt tous, c'est la conséquence du péché. Mais tout ce qui va avec la mort, la séparation, tout qui est brisé, qui ne marche pas, qui n'est pas selon la beauté de ce que Dieu a créé, elle va avoir perdu son aiguillon, son pic, elle n'a plus sa puissance, elle va être brisée. Plus de mort. Puis ça parle ensuite de l'aiguillon de la mort au verset 56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. C'est ça, c'est le péché, l'aiguillon de la mort. La mort, elle nous pique dans le côté avec le péché, avec ce qui nous attriste en tant qu'enfant de Dieu. Ça aussi, il n'y aura plus de péché au ciel. Ça va être fini. Plus de se faire mal les uns aux autres, plus d'égocentrique, plus de rien de ça. Puis ça dit, la puissance du péché, c'est la loi. C'est parce que la loi, en nous disant « Fais pas ça, fais pas ça », bien, ça nous dit que le péché, saisissant l'occasion, vu qu'on est pécheur, d'ailleurs, faites le test, là, vous dites à un groupe d'enfants, même un groupe d'adultes, un peu plus subtil, « Faites pas ça, c'est du quoi? » Tout le monde a le goût de le faire. J'ai déjà donné l'illustration. Un professeur qui s'en va pendant 5 minutes de la classe dit « Ok, les enfants, on peut faire ce que vous voulez. Il y a un petit tiroir ici, là. J'ai mis quelque chose dedans, puis je veux pas que personne n'y touche. » Devinez ce qui va arriver quand que le prof s'en va. C'est ça notre nature pécheresse. Mais il n'y aura plus ça. Il n'y aura plus. Puis ça, c'est ça l'idée aussi de la loi. C'est qu'en 10 ans, fais-le pas. À cause qu'on est pécheur, on a le goût de le faire. C'est ça notre nature pécheresse. On n'est pas pécheur parce qu'on pêche. On pêche parce qu'on est pécheur. On n'est pas pélagien ici. On ne croit pas qu'on devient pécheur. On est pécheur. On est NAIT, pécheur. Et on est aussi pécheur. Toute l'équipe. Verset 57 et 58. Ah, ça, c'est tellement merveilleux. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. C'est là-dessus que je veux qu'on termine, savoir que, oui, on vit dans un monde décevant, on vit toutes sortes de choses physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement, avec nos relations et tout ça. Mais savez-vous quoi? Si on garde les yeux sur le Seigneur, en laissant Dieu agir dans notre vie, en laissant Christ se manifester dans notre vie, il n'y a rien de ça qui est en vain. Du fruit éternel, savez-vous quoi? Ça vaut la peine de souffrir pour le Seigneur. Ça vaut la peine d'être incompris. Ça vaut la peine de ne pas être populaire. Ça vaut la peine de payer le prix de notre foi. Parce qu'au bout du compte, la récompense est grande. On l'a vu ce matin, n'est-ce pas? Le Seigneur rémunère ceux qui le cherchent. Et quelqu'un est venu me voir un matin et dit « Merci d'avoir prêché un message non populaire. » Comment il m'a dit ça? En tout cas, en voulant dire, un message qui pile ses pieds. Savez-vous quoi? Ben moi, je prends ça comme un encouragement parce que le jour où est-ce que vous allez me voir que je veux pas m'enfarger dans les fleurs du tapis puis je vais être politiquement correct, asseyez-vous avec moi puis dites « Ça marche pas. » Puis savez-vous quoi? Si je persévère, mettez-moi dehors. Puis je suis sérieux là, quand je dis ça. Là. Parce qu'un homme de Dieu, si j'étais si je voulais plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Je veux dire, on peut pas être populaire et être ami de tout le monde. On l'a vu, le monde nous haït à cause de Christ. C'est pas parce qu'on chante des bêtises. J'espère qu'un matin, j'ai pas été charnel et commencé à crier après tout le monde, mais je veux dire, on s'excuse pas de ce que Dieu nous dit dans sa parole, puis de ce qui. Puis ça, ben mes amis, c'est pas en vain. Parce que avec le Seigneur, c'est toujours, ça vaut toujours la peine. Amen.
Amen.
Merci Seigneur, on a hâte que tu reviennes. Oh oui Seigneur, on soupire après ton retour. On a tellement hâte de voir Seigneur face à face. Merci Seigneur que tu nous le promets, c'est une certitude. Puis les souffrances du temps présent ne pourraient pas être comparées à la gloire de ce qui est à venir, Seigneur. Merci. Merci Seigneur pour la bienheureuse espérance. Oh Seigneur, ces paroles réchauffent nos cœurs. On se console les uns les autres par ces paroles. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Amen.
Amen.
C'est à votre tour.